Bienvenue pour une heure d'émission comme d'habitude, c'est le titre. Émission préparée et animée par Paul Sud. Reprise, version différente de chansons, poèmes, sketchs, classiques, jazz. Multidiffusion sur Radio Transparence et Oxygène FM.
On y va comme d'habitude. On y va comme d'habitude. On y va comme d'habitude. On y va comme d'habitude.
Comme d'habitude.
J'ai eu tort, je suis revenue dans cette ville loin perdue où j'avais passé mon enfance. J'ai eu tort, j'ai voulu revoir le coteau glisser le soir, bleu et gris, ombre de silence. Et j'ai retrouvé comme avant, longtemps après, le coteau, l'arbre se dressant. Comme au passé, j'ai marché les tempes brûlantes, croyant étouffer sous mes pas les voix du passé qui nous hantent et reviennent sonner le glas. Et je me suis couchée sous l'arbre et c'était les mêmes odeurs. Et j'ai laissé couler mes pleurs. Mes pleurs. J'ai mis mon dos nu à l'écorce, l'arbre m'a redonné des forces, tout comme au temps de mon enfance. Et longtemps j'ai fermé les yeux, je crois que j'ai prié un peu, je retrouvais mon innocence. Avant que le soir ne se pose, j'ai voulu voir la maison fleurie sous les roses. J'ai voulu voir le jardin où nos cris d'enfants jaillissaient comme source claire. Jean-Claude, Régine et puis Jean, tout redevenait comme hier. Le parfum lourd des sauges rouges, les dahlias fauves dans l'allée. Depuis tout, j'ai tout retrouvé. Hélas, la guerre nous avait jetés là. D'autres furent moins heureux, je crois, autant jolis de leur enfance. La guerre nous avait jetés là. Nous vivions comme hors la loi. Et j'aimais cela quand j'y pense. Oh mes printemps, oh mes soleils, oh mes folles années perdues. Oh mes 15 ans, oh mes merveilles, que j'ai mal d'être revenu. Oh les noix fraîches de septembre et l'odeur des murs écrasés. C'est fou tout, j'ai tout retrouvé. Hélas, il ne faut jamais revenir, autant cacher des souvenirs du temps béni de son enfance. Car parmi tous les souvenirs, ceux de l'enfance sont les pires, ceux de l'enfance nous déchirent. Vous ma très chérie, oh ma mère, où êtes-vous donc aujourd'hui? Vous dormez au chaud de la terre, et moi je suis venue ici pour y retrouver votre rire, vos colères et votre jeunesse. Et je suis seule avec ma détresse. Hélas, pourquoi suis-je donc revenue? Et seule au détour de ces rues, j'ai froid, j'ai peur, le soir se penche. Pourquoi suis-je venue ici où mon passé me crucifie? Elle dort jamais, mon enfance.
Bienvenue dans cette émission comme d'habitude. Deuxième émission, seconde consacrée à un thème un peu particulier, un fil rouge particulier autour des titres, des chansons, des sketchs qui racontent des histoires à la première personne, des autobiographies partielle, réelle, fictive. Celle-ci que vous venez d'entendre, je pense qu'elle est très, très réelle. C'est celle que Barbara, dans le titre Mon enfance, chantait, repris par Louane en 2017 dans l'album Elle et Barbara. Barbara qui avait écrit également sur son enfance en référence à son père, Nantes, l'Aigle Noir. Voilà, vous connaissez bien sûr cette... cette partie sombre de son enfance qu'elle a révélée assez tard. Et un autre artiste de l'autre côté de l'Atlantique, au Québec, Félix Leclerc, lui-même avait écrit un roman autobiographique, Pieds nus dans l'aube. Je l'avais passé dans la série d'émissions consacrée à Félix Leclerc que j'avais fait en 2018. Et je vous propose de réécouter un extrait de cette autobiographie qu'il avait lu. Il faisait également de la radio, Félix Leclerc, et il avait lu des extraits avec comme fond musical, vous l'entendrez, J'inviterai l'enfance. Ceux qui connaissent l'œuvre de Félix Leclerc le reconnaîtront, J'inviterai l'enfance, et cet extrait est assez touchant.
Nous sommes tous nés, frères et sœurs, dans une longue maison de bois à trois étages. Une maison bossue et cuite comme un pain de ménage, chaude en dedans et propre comme de la mie. Coiffée de bardeaux, elle ressemblait à un vieux nid juché dans le silence, fixant, comme en extase, la lointaine caravane de monts bleus là-bas, sur lesquels se frappaient des troupeaux nuages et les vieux engoulevents qui n'avaient pu sauter. Nous étions 11 enfants à bord, turbulents et criards, peureux comme des poussins. Nous avions la chaise pour nous bercer, le banc pour faire la prière, le canapé pour pleurer, l'escalier à deux marches pour jouer au train. Aussi de ces jouets savants que nous n'osions toucher, telle cette bête à deux fils, au long bec, sonnerie au front, qui conversait avec les grandes personnes. Un prélard fleuri devenait un parterre, un crochet, c'était les crous, pour rouler les câbles de nos bateaux imaginaires. Les escaliers servaient de glissoires, les tuyaux le long du mur de mâts, et les fauteuils de scènes où nous apprenions, avec les chapeaux, les gants et les paletots des aînés, les grimaces que nous faisons aujourd'hui sans rire. Et comme l'équipage d'un navire heureux ne pense ni aux arrivées ni au départ, mais à la mer qui nous porte, nous voguions dans l'enfance, voiles ouvertes, émus des matins et des soirs, n'enviant ni les ports ni les villes lointaines, convaincus que notre navire battait bon pavillon et renfermait les filtres capables de fléchir pirates et malchances. Et nous ne voulions pas vieillir. Mon père, le pionnier, était commerçant de bois, commerçant de chevaux, de foin, de grains, presque marchand général. Au-dessus de l'écurie, il possédait tout le gréement des chantiers, couverture de laine, ustensiles de cuisine, poêles, paillasses, papier goudronné, bardeaux, tôles, chaînes. Il circulait là-dedans, main dans le dos, silencieux, chagrin parfois, comme un enfant vieilli devant ses jouets de mioche. C'est dans cette maison de la rue Clairefontaine, remplie des rimes de barbus, de Schubert, dans l'odeur de manches de hache et de copeaux d'érable blanc, au milieu de ses visages cuits de vent, de ses grosses mains cornées, de ses yeux couleur d'évasion, que nous avons passé nos premières soirées d'enfants, pendant qu'au dehors poudrait la neige des mystères. Je revois encore Charles Bédard, notre préféré d'entre les hommes. Je le revois nous tailler des polichinelles dans un bloc de cèdre avec son long couteau. C'est lui, Charles, qui, les samedis d'hiver, nous permettait d'accrocher nos traîneaux dans les piquantes sasselets et nous amenait jusqu'au faîte de la montagne pour glisser. Cette montagne où nous allions couper l'arbre de Noël durant les vacances de décembre. Charles Bédard. Je revois les autres hommes aussi. Sur les marches de l'escalier, le soir, après une journée entière de risques généreux, de coups d'épaule, de mordés sur les arbres. Fatigués et rieurs, l'âme pleine du fond de la forêt. Samson, le petit. 11 doigts. Mâchoire, frisé le chauve. Grande voix, poteau. Chemise rouge, bras épais, poilus comme des sangliers. Tous ces disciples de barbus, des plus taciturnes aux plus vantards, cessaient d'affiler les haches et de huiler les bottes. Chaque fois que le plafond au-dessus de la cave se mettait à chanter. Anne-Marie, dans l'ombre du salon en haut, réveillait les ensorceleurs avec ses doigts pâles. Alors, gravement, les hommes fumaient, l'œil fixe, ramassés au milieu de leurs secrets. Ils me faisaient penser à des nuages, ces grands morceaux de silence capables de révolte, de rage, de destruction, de secours, de construction et de charité, qui s'arrêtent un moment parfois pour écouter et repartent quand on les observe. Lorsque la famille était réunie à table et que la soupière fumait, maman disait parfois, cessez un instant de boire et de parler. Nous obéissions. Regardez-vous, disait-elle doucement. Nous nous regardions sans comprendre, amusés. C'est pour vous faire penser au bonheur, ajoutait-elle. Nous n'avions plus envie de rire. Une maison chaude, du pain sur la nappe, des coudes qui se touchent, voilà le bonheur, répétait-elle à table. Puis le repas reprenait tranquillement, nous pensions au bonheur qui sortait des plats fumants, qui nous attendait dehors au soleil, et nous étions heureux. Papa tourna la tête comme nous pour voir le bonheur jusque dans le fond du corridor. En riant parce qu'il se sentait visé, il demandait à ma mère, « Pourquoi tu m'y fais penser à ce bonheur ?» Elle répondait pour qu'il reste avec nous le plus longtemps possible. La cloche du petit lac avait bien raison de nous rappeler que nous étions des enfants privilégiés, n'ayant comme inquiétude qu'un devoir de classe à terminer dans la chaleur de la famille. Je n'en savais pas plus long. Maman disait, le reste viendra bien assez vite. Aime tes 12 ans. Et c'est à elle que j'obéissais.
Après Félix Leclerc, Pieds nus dans l'aube, je propose une autre histoire qui raconte que quand j'étais une jeune fille, j'avais l'habitude de chercher le plaisir. Quand j'étais une jeune fille, j'avais l'habitude de boire de la bière. Sans la bière, la maison est comme une prison. Mon corps est sauvé et l'enfer est mon destin. Viens maman, viens papa et asseyez-vous près de moi. Venez vous asseoir près de moi et plaignez mon cas. Ma pauvre tête est douloureuse, mon triste cœur en morceaux. Mon cœur se sauve et l'enfer est mon destin. S'il vous plaît, envoyez chercher le prédicateur qu'il vienne et prie pour moi. Et envoyez chercher le docteur qu'il guérisse toutes mes blessures. Ma pauvre tête est douloureuse, mon triste cœur en morceaux. Mon corps se sauve et je suis en train de mourir. Un matin de mai, j'ai vu cette jeune fille toute vêtue de blanc. Toute vêtue de blanc et appelée le fléau. Chanson traditionnelle popularisée par Nina Simone et reprise ici par Feist, When I Was a Young Girl.
My poor head is I saw this young lady all wrapped in white linen, all wrapped in white linen, and call out the
Quand je rentre à la maison, elle me dit souvent que j'ai une tête d'enterrement. Et elle a raison, je travaille au cimetière, c'est incontestable. Je laisse ma tête au vestiaire et je me mets à table. Faut pas se laisser abattre, j'ai une faim de loup. Moi je mange comme quatre et je bois comme un trou. Puis je retourne au cimetière, travailler de mon mieux, digérer mon pot de bière et mon croque-monsieur. Pendant l'oraison du prêtre, j'ai un petit creux. Moi je pense à ma côtelette, à mon pot au feu, aux premières couronnes de fleurs. J'ai déjà la dent, c'est mon estomac qui pleure. À chaque enterrement, la la la, 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 la. Comme un côté du cimetière est inhabité, j'ai planté des pommes de terre dans l'intimité. Dans ma jaquette noire, entre deux services, je donne un coup d'arrosoir et je cours à l'office. Je gratte, je binette, je bêche, quelle heure surprise. Quand je trouve un verre pour la pêche, je range ma prise dans une boîte en fer blanc, le temps est superbe. Voilà un coin épatant pour déjeuner sur l'herbe. À présent qu'a sonné l'heure, l'heure du goupillon, je pense à mes pommes vapeur, à mon courbouillon. Et quand tombent les premières gouttes sur mon haut de forme, c'est mon ventre qui glougloute, mon ventre qui grogne, la la la, 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 la. Parfois je croque un oignon, parfois une gousse d'ail, parfois même un champignon est une victuaille. Il faut faire avec, ce n'est pas copieux, car ces oraisons du prêtre on n'en voit pas la queue. Le vent chasse les nuages, c'est providentiel, un grand disque de fromage tourne dans le ciel. La femme monte à la tête, j'avale mon chapeau, un bouton de ma jaquette et un pauvre mulot. Je me sens pas dans mon assiette, je vais rendre l'âme quand je pense à mes paupiettes. À mon croque-madame, ça fait trop longtemps que ça dure. Je m'allonge un peu sur le tapis de verdure et je ferme les yeux. La la la, la la la, la la la, la 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 la. Ça fait trop longtemps que ça dure. Je m'allonge un peu sur le tapis de verdure et je ferme les yeux. La la la.
Retraité du métro, à la campagne j'oublie ce sale boulot. J'ai un parc, une maisonnette, des petites fleurettes, des cyclamènes, des bégonias, des chrysanthèmes et pas de lilas. Et sous le beau ciel de France, je vois briller des objets de faïence. Car pour allonger la retraite, trop maigrelette, c'est moi qui suis le fossoyeur du cimetière de Passy-sur-Eure. Je fais des trous, je fais des trous, je fais des grands trous, des grands trous, des grands trous, toujours des grands trous, des trous de première classe, des trous de seconde classe. Je fais des trous, je fais des trous, je fais des grands trous, et je préfère les grands trous aux tout petits trous, petits trous, petits trous, petits trous, petits trous.
Alors là, je ne sais pas si on est vraiment dans l'autobiographie ou dans la biographie fantasmée. Peut-être que vous avez reconnu, bien sûr, la dernière, c'était Serge Gainsbourg qui reprenait sa chanson Le Poinçonneur des Lilas dans une version Je suis le Fossoyeur de Passy-sur-Eure, hein, donc une version qui n'est pas très, très connue. Il fait des trous, des petits trous, et parce qu'il n'a pas de quoi payer sa retraite. Hein, voilà, sujet d'actualité. Et juste avant, c'était une autre version de ce thème du Fossoyeur que Brassens également avait popularisé. C'est Thomas Fersen. Le titre s'appelle Croc. Et là, c'était une reprise version ukulélé, accompagnée au ukulélé de Thomas Fersen, donc de cette chanson Croc. Donc là, je vous dis, on n'est pas vraiment dans l'autobiographie, on est plus dans la biographie inventée, un petit peu mythomanie, comme Serge le Mytho. Alors, si vous ne connaissez pas Serge le Mytho, Jonathan Cohen, qui a fait une série de pastilles délirantes à la télé, sur les chaînes YouTube et autres, Allez regarder ces délires mythomaniaques, par exemple celui-ci où il parle de Steve Jobs.
Moi j'ai vécu 15 ans au States avec mon rap.
D'accord.
Mon père était super poteau avec Steve Jobs. Et en fait, Steve Jobs, il me portait sur ses genoux et tout. Il me disait Serge et tout, un jour tu verras. Mon père était dans les fruits et légumes.
D'accord.
C'était un ouf des fruits et légumes. À l'époque, les fruits et légumes, ça cartonnait de malade, tu vois. Mmh. Et tout le monde avait une pomme, une banane. Et un jour, il va voir mon rep à Rungis. Et mon rep, il avait un délire, c'est qu'il avait comme un tic. À chaque fois, il croquait une pomme, frère. Et Steve Jobs, il voit ça, mec. Il refait le coup de la pomme, là. Mon rep, il recroque une pomme. Et l'autre mec, il pète un boulard. Mais comme ça, il fait... Oui, t'es un génie. La pomme qui écro. Macintosh, mon frère.
Putain.
Tiens, d'ailleurs, hey, tu sais quoi? Tiens, je te le donne.
Oh, t'es sérieux?
Ouais, je vais recevoir le prochain iPhone 7.
Putain. Ah ouais?
Et ce ouf de Steve Jobs, avant de mourir, il a dit, moi, je veux que le prochain iPhone, l'iPhone 7, il s'appelle l'iPhone Serge.
c'est
pas galerie, frère. C'est comme un oncle à WAM, hein. Là, mec, mais c'est pas possible, je commence à répleu, le mec, il est mort. Je dis, mais pourquoi? Pourquoi? Et après, ça a créé une polémique, je sais pas si vous avez entendu parler, dans le Huffington Post. Tout le monde dit, mais c'est un truc, mais non, on peut pas appeler l'iPhone Serge. Non, l'iPhone 6, l'iPhone Serge, c'est pas possible. Mais là où c'est un truc de ouf, là où Steve Jobs, tu nous manques, hein. C'est un génie, frère. C'est que le chiffre 7, mec, en japonais, ça se dit Serge.
T'es pas sérieux, non?
Shunga, Tumpe, Hutsta, Huhu, Shingo, Dimbo, Serge, Hitchi, Kompa. Et le 10, j'ai oublié.
Ouais. Tu parles japonais?
Ouais, de ouf.
Comment ça se fait?
Marum.
Ma mère dansait dans les bars, imitant Jean Harlow. Mon père lançait les poignards au cirque Buffalo. Puis on m'a dit un jour que West et moi j'ai pédalé. De New York à Los Angeles sur un vélo volé. Alors j'ai usé mes coudes à frotter les comptoirs. Avec une étoile d'Hollywood qui perdait la mémoire. Le long de Sunset Boulevard, bras dessus, bras dessous. On perdait ses derniers dollars dans les machines à sous. Un jour Benjamin Chancar, le cousin ou le frère. Sitar à la cour d'Angleterre a gagné au dé le droit d'être un an son amant. On est allé vivre à trois dans son appartement. Elle ramenait des voyageurs, des collégiens timides. pouvait faire de dollars l'heure quelques polaroïdes. Elle nous mettait dans la cuisine pour ne pas qu'on regarde. En deux mois, on jouait tout Gershwin sur des verres à moutarde. On a fait du music hall déguisé en hindou. Elle dansait en baby doll sur Rhapsody in Blue. Elle a fini sous le capot d'une Dodge ou Cadillac. J'ai ramassé son chapeau et l'autre a pris son sac. Puis il a continué sa vie d'indo errant. Moi, je suis retourné vivre chez mes parents. Ma mère devenait trop laide pour jouer Jean Harlow. Mon père avait tué son aide au cirque à Buffalo.
Après Serge le mytho qui raconte sa rencontre avec Steve Jobs, vous avez entendu, je vous ai proposé cette chanson que j'adore, je ne sais pas pourquoi, Hollywood, c'est David McNeil, c'est la version originale que je vous ai passée. Il y a une reprise d'Yves Montand, mais à troisième personne, donc je trouve que c'était moins dans le ton de l'émission. Il y a même une reprise par un chanteur mort qui s'appelle Renaud, qui vient de reprendre ce titre en le massacrant. Donc c'est pour ça que je vous ai passé la version de David McNeil de cette chanson Hollywood. Voilà, magique, on se laisse emporter ou pas. J'espère que vous, oui. Et dans la série des autobiographies fantasmées, un petit peu mythomaniaques, comme j'ai dit tout à l'heure, je vous propose également cette chanson de, comment s'appelle-t-il déjà, Philippe Catherine, en 2005, où il racontait un cauchemar vivant. Il avait rencontré dans la rue, rappelez-vous.
Marine Le Pen, non, Marine Le Pen, non, mais tu le crois pas, putain, Marine Le Pen, non, mais Marine Le Pen, non, mais tu le crois ça.
Ouais, tu sais, c'était samedi, là, à côté de la maison de la radio, je marchais dans la rue, et puis il y a une fille juste devant moi, avec ses grands cheveux blonds, tu vois. J'ai commencé à la suivre parce que, je sais pas, j'avais envie de baiser, puis tout d'un coup, elle s'est retournée, et là, qu'est-ce que je vois?
Putain, Marine Le Pen, non, Marine Le Pen, non, mais tu le crois pas, putain, Marine Le Pen, non, mais Marine Le Pen, non, mais tu le crois ça.
Alors? Alors je me dis, ok, c'est bon, je rentre chez moi, je la dépasse et puis je marche avenue du président Kennedy jusqu'à la place de Varsovie, puis il faisait bon et c'était cool. Et puis là je me retourne, puis je la vois qui marche derrière moi, puis je commence à flipper parce que je me rends compte qu'elle me suit vraiment. Dans les jardins du Trocadéro, place de Chaillot, tout ça, je me rends compte qu'elle me suit vraiment. Métro Boissière, j'accélère, métro Kléber, et puis je la vois, elle est toujours derrière moi. Puis j'appelle un taxi, puis il est pris, et puis je commence à courir, et c'est vraiment un cauchemar. Et puis je monte, parce que j'ai pas trop le choix, je monte, et je me retrouve place de l'Étoile, et il y a plein de bagnoles, comme d'habitude, et puis elle est à 2 mètres, je sens qu'elle est à 2 mètres de moi. J'ose pas me retourner, là j'appelle un taxi, miracle, il s'arrête, je monte dedans, au dernier moment, l'horreur absurde. Marine Le Pen, non, Marine Le Pen, non, mais tu le crois pas. Mieux fallu rester chez moi. Ce jour-là, je me suis dit qu'il qu'il aurait mieux fallu rester chez moi.
Fallu. Fallu. C'est un mot, c'est quoi? C'est pas assez compliqué, ça?
Non, il aurait mieux fallu. C'est conditionnel passé, première forme. Tu vois, on aurait pu dire il aurait mieux valu aussi, mais du verbe valoir. Tu t'étais plus élégant.
Alors?
Voilà.
Alors?
Putain, Marine Le Pen, non, non, Marine Le Pen, non, mais tu ne crois pas, tu ne crois pas, putain, Marine Le Pen, non, non, mais Marine Le Pen, non, mais tu ne crois pas, tu ne crois ça, comme d'habitude.
Vous êtes bien, décidément de mieux en mieux dans l'émission comme d'habitude, préparée et animée par Paul Sud, votre serviteur. Et vous savez qu'avec cette petite phrase rituelle qui suit le jingle des Zigzazou, on est à mi-parcours, on l'a légèrement dépassé aujourd'hui, de cette émission, la seconde consacrée au thème des autobiographies, des histoires, belles ou pas, racontées à la première personne, comme ce récit autobiographique, je pense, de Philippe Catherine en 2005, ça s'appelle le 20-04-2005, c'est le titre de la chanson, puis entre parenthèses, il y a marqué la femme politique dont il parle, je ne vais pas répéter son nom. Voilà. Et donc, on poursuit, on termine cette deuxième partie avec un titre de Gauvrache que j'avais passé quand je l'avais rencontré à Foix, concert sur place cet été. Et on prolongera ce titre, Le bout de la table, avec un autre titre qui parle des mémoires d'une table, Gauvrache.
Je me souviens du bout de la table comme d'un fragment d'éternité. C'est Noël, j'ai 4 ans, je suis le plus jeune de la famille. À l'autre bout, en face de moi, mon arrière-grand-mère est figée. Elle n'entend plus que des yeux et semble sourire sans béquille. Entre elle et moi, il y a les grands, qu'elle continue d'appeler les jeunes. Ils parlent vite, ils parlent fort, je ne comprends pas tout ce qu'ils se disent. Tonton Daniel a l'air d'être drôle, il fait des blagues quand on déjeune. Vous devriez voir comme il est fier quand sa femme rit à ses bêtises. Et à ma mère, un peu plus loin, qui parfois jette un œil sur moi, elle trouve toujours une bonne excuse pour venir jusqu'au bout de la table. Une viande un peu dure à couper, un pichet d'eau trop lourd pour moi. À cette époque, j'étais un roi, assis sur un trône éjectable. Le bout de la table n'est pas très loin, mais il s'éloigne. L'arrière-grand-mère me manque un peu, et mon grand-père a pris sa place. Ses mains voyagent, elles papillonnent, prennent des détours quand elles se joignent. Personne ne semble s'en rendre compte, à part peut-être le temps qui passe. Maintenant que je comprends ces blagues, tonton Daniel me fait marrer. Et je crois qu'il n'est vraiment heureux que quand sa femme rit à pleines dents. Ça se fend la gueule, ça boit des coups, tout le monde trinque à la légèreté. Et pendant ce temps, le bout de la table s'efface derrière un tremblement. J'ai 35 ans, mon fils a pris la place du roi. En face de lui, je vois sa grand-mère faire de ma mère une vieille dame. Mais c'est la vie, comme dit Daniel, il faut garder le sens de la joie. Pourtant parfois, l'humour d'un homme ne dure que le temps d'un rire de femme. J'ai 60 ans et l'intention de profiter de chaque image. Mon petit-fils au bout de la table qui galère avec son steak. Ma mère qui livre un combat contre un pichet trop lourd pour son âge. y a le bout de la table qui m'attend, mais j'ai plus peur de me battre avec. Je me souvenais bien de cette place comme d'un fragment d'éternité. Je suis le plus vieux, mais qu'importe l'âge, je suis bien, c'est Noël. À l'autre bout, en face de moi, un petit garçon semble très intrigué par mes mains qui voyagent malgré elles. Entre nous deux, il y a les jeunes qui parlent fort, qui parlent entre eux. Il y a un petit neveu qui a l'air d'être drôle, il fait marrer toute la famille. Ce brouhaha d'éclats de rire que je n'entends plus qu'avec les yeux. Je vais continuer d'en profiter et je vais sourire sans béquille. Ça fait 10 ans que je m'assois ici et je m'y sens bien à chaque Noël. Je crois bien que j'ai passé toute ma vie à jouer aux chaises infidèles. J'ai mis une vie pour m'asseoir là et prendre conscience du temps qui passe. Il faut une vie pour s'asseoir là et accepter de céder la place.
J'étais à ma place, que je trônais dans la salle à manger. J'ai vu passer un siècle comme passe 10 000 années quand on est un rocher. Bien sûr, 100 fois on a changé les chaises, mais on ne peut parler de compagnie avec des gens dont l'humour est punaise. Les rempaillages, l'unique souci. Quant aux humains, pardonnez-moi, c'est pire. Ce que j'ai vu est à vous dégoûter. Et j'en connais qui donnerait un empire pour m'empêcher aujourd'hui de parler. À mes débuts, je suis sorti pimpante, fraîche et menue des mains du menuisier, pour atterrir chez ton arrière-grand-tante. Troisième étage face à l'escalier. Bien qu'elle n'eût alors que 20 ans d'âge, c'était déjà ce qu'on t'a raconté. Vieille maniaque obsédée du ménage, j'en ai les reins encore tout esquintés. Si j'ai souffert d'une façon certaine, sous le cirage et la paille de fer, un seul dîner, une fois par semaine, c'est emmerdant, mais ce n'est pas l'enfer. Quand elle est morte pour son héritage, sur mon plateau frappaient les héritiers. Puis ton grand-père, à la fin du carnage, prit la maison et la salle à manger. Si tu savais combien il est pénible d'être la table d'un jeune marié, d'être pudique et néanmoins la cible des érotismes de l'après-dîner. Et j'ai connu toutes sortes d'outrages, taches de vin et taches de café, taches enfin que tous les bons usages même aujourd'hui m'empêchent de nommer. Ton père et ses compositions françaises qu'il écrivait à tort et à travers, insanité, maladresse, fadaise que j'ai encore imprimé à l'envers. Et les Noëls, les repas de famille, la politique et les pleurs des enfants, et le papa faisant du pied aux filles, la triste vie nageant dans le vin blanc.
Dès les matins, des lendemains de fête, sous le pain dur et le verre brisé, et les longs soirs et les nuits de défaite, sous les alcools et les fronts appuyés. Je suis moulu, vermoulu, je suis vieille, je les entends jusqu'après leur trépas. Certaines nuits, je sens bien qu'ils essayent de me parler, mais je ne bouge pas. Et quand ma vie finira dans les flammes, dis aux poètes qui voulaient savoir si les objets étaient doués d'une âme, que j'aurais préféré n'en pas avoir. Si les objets étaient doués d'une âme, que j'aurais préféré n'en pas avoir.
Le bout de la table, magnifique chanson de Gavroche, une histoire de vie, hein, en partie autobiographique, et puis bien sûr il la prolonge avec ce renouvellement de génération. C'était sur son album Des Murmures en 2019. Je vous ai proposé le titre qui me semble un bon prolongement, je l'avais dit à Gauvrache, c'est Mémoire d'une table de Maxime Le Forestier. Ça date un peu plus, c'est de 1998, un album qui s'appelait Sage. Et j'ai prolongé avec une femme, une voix de femme, une histoire de femme, celle de Olivia Ruiz, Je traîne des pieds. C'était en 2007, album éponyme, son premier album. Et cette belle histoire de son enfance dans un café, un petit peu comme Pierre Perret. Donc c'était elle du côté de Carcassonne, enfin dans l'Aude en tout cas, c'est sûr. Je vous propose de nous rapprocher progressivement de la fin de cette émission avec une autre histoire d'enfance, de jeunesse. Elle est interprétée cette fois-ci par Hubert Félix Thiéfaine, La Ruelle des Morts, sur l'album, extrait de l'album qui lui a valu une victoire de la musique. Et là, c'est repris en 2017 avec Jean-François Zigel, qui fait des émissions autour de musique classique et autres, et qui l'a donc accompagné à une série d'artistes. Ça s'appelait L'Alchimiste, l'album. Et donc, il avait invité Hubert Félix Thiéfaine à reprendre Sa Ruelle des Morts dans une version piano-voix.
Avec nos bidons en fer blanc, on descendait chercher le lait à la ferme au soleil couchant dans l'odeur des soirs de juillet. On avait l'âge des confitures, des billets, des îles au trésor, et l'on allait cueillir les mûres en bas dans la ruelle des morts. Que Barberousse avait ici sa garnison, et que dans ce coin de Cambrousse il avait vaincu des dragons. On avait l'âge de nos fêlures et on était conquistadors. On déterrait casque et fémur en bas dans la ruelle des morts. Dans la ruelle des morts. On arrosait toutes nos victoires à grands coups de verre de kéfir. Ivre de joie et sans savoir, on reprenait Mercel Kébir. Puis c'était nos chars en dinky contre les tigres d'Orifor qui libéraient la French County en bas dans la ruelle des morts. Que ne demeurent les printemps à l'heure des sorties de l'école, quand les filles nous jouent leurs 16 ans contre une bouffe de Royal Menthol. Je ne sais plus si c'était Françoise, Martine, Claudine ou Marie-Laure qui nous faisait goûter leurs framboises en bas dans la ruelle des morts. Ne demeurent les automnes quand sonne l'heure de nos folies. J'ai comme un bourdon qui résonne au clocher de ma nostalgie. Les enfants cueillent des immortels, des chrysanthèmes, des boutons d'or. Les deuils se ramassent à l'appel en bas dans la ruelle des morts. Dans la ruelle des morts. Dans la ruelle des morts.
début du parcours dans les vieux faubourgs d'une ville morte. Des usines en panne, bistrot et castagne, touche pas à mon pote. Une école primaire, la craie, la poussière, le bruit des motos. Des langues mélangées, Lisbonne et Alger, sous le même préau. Mon histoire défile comme un drôle de film. Je prends la fuite en Super 8. Passent les années, je plonge en acné, naufrage intégral. Le regard des filles fait fondre mes billes et mon idéal. Je vois qu'elles me toisent, alors je m'écrase et comme un réflexe, je prends une guitare en guise de poignard contre mes complexes. Mon histoire défile comme un drôle de film. Je prends la fuite en Super 8. 18 ans à peine, le feu dans les veines, les yeux grands ouverts. Je pars à la fac avec dans mon sac le monde à refaire. Y'a Che Guevara tatoué sur mon bras, je me sens rebelle. Je suis qu'un petit monarque, noyé sous les marques et les décibels. Mon histoire défile comme un drôle de film. Je prends la fuite en Super 8. En Super 8. Voilà ce soir, je marche au hasard le long des rivières. Je suis toujours vivant, même si les vents deviennent contraires. J'aurais tout de même semé quelques graines dans le bleu des villes. Des mots et des notes qui cognent à la porte des cœurs en exil. Mon histoire défile comme un drôle de film. Je prends la fuite en Super 8.
Mon histoire défile comme un drôle de film.
Je prends la fuite en Super 8.
Après Hubert Félix Thiéphaine, qui sera dans les parages le 28 octobre à Limoux, réservé, je vous ai proposé donc cette chanson Super 8 de Frédéric Bobin. Je le passe assez souvent parce que j'aime beaucoup cet artiste, dans un extrait d'un album de 2018, Les Larmes d'Or. Et Frédéric Bobin sera également, alors là, chez nous, à Verniolle, le Festipoche, on en reparlera. Il sera là début juillet avec Kent, le chanteur Kent, ici, donc tout près de chez nous. Donc je propose de terminer cette seconde émission avec un titre qui m'a servi sur le blog où je mets les émissions Tranches de vie, autobiographie et tranches de vie. C'est bien sûr la chanson de François Béranger. Si vous ne connaissez pas François Béranger, précipitez-vous. Il y a plein de versions, notamment une de Thiéphaine que j'aime beaucoup, mais là je vais vous passer une version un peu chaloupée, un petit peu des îles. C'est la version de Thomas Pithiot qui reprend cette chanson de François Béranger, Tranche de vie. À très bientôt sur Radio Transparence et Oxygène FM. Bientôt une surprise avec une interview, une émission autour d'une interview de HK. Salut.
Je suis né dans un petit village qui a un nom pas du tout commun,
bien sûr entouré de bocages. C'est le village de Saint-Martin. À peine j'ai 5 ans qu'on m'emmène avec ma mère et mes frangins. Mon père pense qu'il y aura du turbin dans la ville où coule la Seine. La capitale, c'est bien joli, sûrement quand on la voit de Passy. Mais de Nanterre ou de Charenton, c'est déjà beaucoup moins folichon. J'ai pas de mal à imaginer par où ce que mon père est passé, vu que j'ai connu 15 ans plus tard le même tracas, le même bazar.
J'en suis encore à me demander, après tant et tant d'années, à quoi ça sert de vivre et tout, à quoi ça sert en bref d'être né. Le matin, faut aller piétiner devant les guichets de la main-d'œuvre. L'après-midi, solliciter bon cœur des punaises des bonnes veuves.
Ma mère, elle était toute paumée, sans ses lapins et ses couvées.
Et puis pouvoir essayer donc, sans fric, de remplir 5 lardons.
Pour pas faire mon éducation et à la communale en béton. Là, on fait de la pédagogie devant 60 moments furie. En plus de l'alphabet du calcul, j'ai pris beaucoup de coups de pied au cul. Et sans qu'on me l'ait demandé, j'ai appris l'arabe et le soninké.
J'en suis encore à me demander, après tant et tant d'années, à quoi ça sert de vivre et tout, à quoi ça sert en bref d'être né. À 15 ans finit la belle vie, t'es plus un môme, t'es plus un petit. Je me retrouve les deux mains dans le pétrole à frotter les pièces de bagnole. 9-10 heures dans un atelier, ça vous épanouit la jeunesse. Ça vous arrange même la santé, pour le monde on a de la tendresse.
Quand on en a un peu là-dedans, on n'y reste pas bien longtemps. On s'arrange tout naturellement pour faire des trucs moins fatigants. Je me faufile dans une méchante bande qui voyoute la nuit sur la lande. J'apprends des chansons de bruant en faisant des croche-pattes aux agents.
J'en suis encore à me demander, après tant et tant d'années, à quoi ça sert de vivre et tout, à quoi ça sert en bref d'être. Sur la maison Poulaga, ma grippe à mon premier faux pas. Ça tombe bien, mon pote, t'as de la haine, faut du monde pour le FLN.
Je me farcis 3 ans de casse-pipe, au rescabilimiti déjà. Y'a de quoi prendre toute l'Afrique en grippe, mais faut servir le pays ou pas. Quand on me relâche, je suis vidé, je suis comme un petit sac en papier. Y'a plus rien dedans, tout est cassé, j'ai même plus envie d'une mémé. Quand j'ai cru que j'allais me réveiller, les flics m'ont vachement tabassé. Faut dire qu'on s'était amusé à leur balancer les pavés.
J'en suis encore à me demander, après tant et tant d'années, à quoi ça sert de vivre et tout, à quoi ça sert en bref d'être né.
Les flics, pour ce qui est de la monnaie, ils la rendent avec intérêt. Le crâne, le ventre, les roustons, enfin quoi, vive la nation. Le juge m'a filé 3 ans de caisse, rapport à mes antécédents. Moi, je peux pas dire que je suis en liesse, mais enfin, qu'est-ce que c'est que 3 ans. Donc, je vais pouvoir m'épanouir dans une société structurée. Je ferai des chaussons et des balais, et je pourrais me remettre à lire. Je suis né dans un petit village, qu'un nom pas du tout commun. Bien sûr, entouré de bocages, c'est le village de Saint-Martin.
J'en suis encore à me demander, après tant et tant d'années, à quoi ça sert de vivre et tout, à quoi ça sert en bref d'être né.
À quoi ça sert
de vivre et tout,
à quoi ça sert
en bref d'être né.
À quoi ça sert
de vivre et tout,
à quoi ça sert
en bref d'être né.
À quoi ça sert
de vivre et tout,
à quoi ça sert
en bref d'être né.
À quoi ça sert.
Comme d'habitude.